Vous pensez que c'est facile pour ceux qui réussissent? Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir le contraire avec Aurel San. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de Créer ta vie, épisode 654. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous et que vous avez envie de créer du contenu, développer votre marque personnelle. Vous savez que je suis là pour vous aider avec ça. Comment créer notre propre vie, ne pas subir celle que l'on nous impose? Telle est ma quête et moi j'ai décidé de le faire en créant du contenu. Et chaque semaine, je partage avec vous des conseils, les résultats de mes expériences et je parle rencontre de personnes qui peuvent nous aider à créer, nous faire progresser sur ce chemin. Nous créons notre futur chaque jour et j'ai décidé, moi, de le faire en créant du contenu et de vous aider à le faire de même, en créant vous aussi du contenu, que ce soit podcast, YouTube, Instagram, en tout cas, développer votre marque personnelle, partager vos idées. Et c'est un point commun que nous avons avec les artistes dont nous lisons les livres, dont nous regardons les films, dont nous écoutons les musiques. Bah oui, comme par exemple Aurel San. Alors Aurel San, faut le dire, hein, moi je suis pas un très grand fan de rap. Et pendant très longtemps, j'ai regardé Aurel San, mais vraiment de manière très très lointaine. Hein. Pourtant, on a un âge à peu près, il est un poil plus jeune que moi. Mais en fait, j'étais pas vraiment fan de sa musique jusqu'au moment où l'an dernier, j'ai regardé le documentaire Montre jamais ça à personne, qui montre les coulisses de ses premières années de galère jusqu'à son succès à Bercy, où on voit en fait comment il a réussi à percer, comment il s'est acharné pour réussir à percer. Et c'est vraiment fascinant parce que on voit un petit peu la construction de sa carrière. Oui, il y a eu des trucs qui étaient composés, qui ont fait des scandales. Oui, il s'est pris des députés qui ont parlé de lui à l'Assemblée, qui voulaient l'interdire dans les salles, etc. Et puis petit à petit, il avait réussi à se faire une place. Et puis on le laissait alors à Bercy, voilà, sur les tournées, sur le succès, sur Bercy qui était rempli. Et là maintenant, on le retrouve. Et en début du confinement en fait, juste au début du confinement, on le retrouve dans sa maison et maison dans laquelle il a mis dans son jardin un studio d'enregistrement. Et au début, son frère qui a fait la première partie continue à le suivre pour sa deuxième partie et on s'installe avec lui, pour voir la création de l'album Civilisation qui est sorti l'an dernier en novembre 2021. Et c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. En 4 épisodes, donc c'est assez rapide. Hein, ça fait faire 4 fois 45 minutes ou à peu près dans cette zone-là. Donc vous n'avez pas besoin d'y passer un week-end complet pour regarder. Hein, ça va très vite. C'est très très bien raconté. On découvre la création de l'album. Au moment où il pose ses instruments, où il installe son ordinateur, jusqu'à Bercy finalement. Hein, et on voit comment se crée l'album. Et j'en ai retenu quelques grands éléments qui devraient tous nous rassurer quand on galère pour créer. Vous savez que je suis, j'ai un concept qui c'est les marées de l'angoisse. Les marées de l'angoisse, je l'avais développé au début pour la course à pied, mais en fait, on peut développer pour n'importe quel projet. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un truc qui nous paraît être une bonne idée. Et puis, au fur et à mesure où on avance, on se rend compte que ça devient extrêmement galère. Et puis, de plus en plus galère. Et on se demande même si on va arriver à s'en sortir. La bonne surprise, je trouve que c'est une bonne surprise parce qu'elle nous rassure, mais la vraie surprise de ce documentaire, c'est qu'en fait, on va voir Aurel San dedans, en train de traverser les marées de l'angoisse. Et c'est vraiment très rassurant pour nous tous parce que ça montre que malgré ses succès, malgré le fait d'avoir rempli Bercy, malgré le fait d'avoir des disques de platine, malgré le fait que l'album que Civilisation soit le plus gros lancement de l'année 2021 et l'un des plus gros lancements de la musique française, les ventes en quelques minutes explosent à tel point que le site explose, ils peuvent plus payer, enfin c'est vraiment tout explose. Et malgré ça en fait, on se rend compte à quel point ça a été compliqué. À quel point ils ont pensé à un moment donné avec son équipe ne pas arriver à sortir l'album et à quel point ils pensaient même ne pas être capables d'écrire, de faire un couplet, de faire quelques phrases. Et ça, c'est incroyable. On avait vu sa détermination, son travail pour avancer dans la première partie. Et là, on découvre en fait que malgré tout le parcours, malgré ses albums, malgré ses chansons, c'est compliqué. Et ce que je voudrais vous partager avec vous, c'est des grandes idées que j'ai retenues de ce documentaire qui vont bien sûr tourner autour de ça. On est vraiment dans cette difficulté. J'en ai retiré quelques grandes idées et puis pour en faire un bilan et pour voir un petit peu ce que pour nous ça nous inspire dans notre quotidien. Le premier point, quand même, avant d'arriver dans la galère, c'est de voir d'où vient son élément de création. C'est quoi la matière première? Avec quoi il crée? Et déjà, c'est de se rappeler, et moi, c'est ce que j'appelle, en fait, créer la Seinfeld, créer cette Godin, c'est de prendre, en fait, tout ce qui l'entoure, l'actu, le monde, sa vie, les anecdotes, tout ça, et de raconter ce qu'il vit, ce qu'il a vécu, ce qu'il ressent, comment il voit les choses. C'est le propre de l'artiste, mais en fait, on peut tous le faire. Vraiment, on se dit, les artistes, ils sont là-dedans, ils dépeignent un peu le quotidien, ils dépeignent un peu des sentiments que peut ressentir la société. Mais en fait, on le fait tous. Hein. On est tous à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. On a tous des détails. Et vraiment, moi, ce que je vous invite à faire, quand je dis créer à la Seinfeld ou créer à cette Godin, c'est de dire que tout élément qui est autour de nous peut servir de base, de point de départ à une histoire que l'on va raconter. La capacité incroyable de d'Orelsan, c'est qu'il est capable de prendre un élément et de raconter une histoire autour de ça. Et avec la musique qui va avec les montages, l'audio, on le voit très bien à l'intérieur du documentaire. Il y a à un moment donné, il y a une chanson, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est 208 pistes, hein, avec les différents instruments, les montages. Donc, c'est un très gros travail de montage, d'assemblage de plein d'éléments. Oui, je dis bien d'assemblage de plein d'éléments, parce que le deuxième point, c'est que il fait vraiment du remix créatif. Ça, c'est quelque chose dont je parle souvent aussi. C'est qu'en fait, on a l'impression comme ça que les chansons, bien sûr, quand on les écoute, tout est bouclé. Mais en fait, quand on regarde le documentaire, il y a plein de bouts de choses, en fait. On entend plein de bouts de choses. Des chansons où ils chantent trop haut, des chansons où le rythme n'est pas bon, des chansons où il y a un bout de son, on se dit, bah tiens, ça ressemble à un truc que j'ai entendu dans l'album, mais c'est pas tout à fait pareil. Des mélanges aussi. En fait, on se rend compte qu'il fait beaucoup de remix. Il remix, par exemple, des couplets, des sons qui lui plaisent, des artistes qu'il a entendus. Quand il prend des sons sur Internet, il écoute des choses, il dit, bah tiens, moi, ça m'inspire, j'ai envie de mélanger ça avec ça. Donc, c'est du remix créatif. Et puis, il regarde aussi ce qu'il, lui, il a écrit. Et puis, il dit, bah tiens, il y a ça qui pourrait aller avec ça, ou ce couplet pourrait aller avec ça. On se rend compte, par exemple, qu'une chanson, elle est faite de couplets, de chansons qui étaient prévues différemment, de couplets qu'il avait écrits comme ça parce qu'il aimait bien les rimes. Et puis, bah, il met ça, plus le couplet d'une autre chanson, plus le refrain d'une autre chanson, plus le couplet d'une autre chanson. Et ça arrive, en fait, avec quelque chose qui lui plaît bien, puis sur un son qui colle, et puis tout d'un coup, il dit, ah, c'est ça. Mais pour arriver à ça, eh ben, en fait, on se rend compte que c'est extrêmement compliqué et qu'il y a des semaines complètes où, en fait, il n'avance pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Et c'est un bon élément, hein, de se rappeler ça, c'est que il y a des moments, ben, on a l'impression qu'on n'avance pas. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il est toujours sur avancer, 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 avancer. Ça coince. Mais en fait, il s'acharne et il le dit à un moment donné et ça ressemble un petit peu à ce que moi je connais en course à pied avec l'ultra que j'ai découvert sur 24 heures et on m'avait dit avant. Mais il dit de toute façon sur l'ultra, sur un 24 heures, quoi qu'il arrive, il faut avancer. Mettre un pied devant l'autre, que ce soit en courant ou en marchant, c'est avancer, avancer, avancer. Et puis se nourrir, bien sûr, se reposer quand c'est le moment, mais avancer, 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 avancer. Et en fait, Orelsan, il le dit à un moment donné. Il dit voilà, il y a des moments ça coince, ils sont à la fin, ils s'endorment à moitié sur il leur reste un couplet pour boucler l'album et l'envoyer en production. Ils sont vraiment sur la deadline. Et puis, il faut quand même avancer, avancer, avancer. Mais dans tous les moments, en fait, on voit ça. La difficulté, en fait, c'est de se dire, là, ça coince, ça bloque, mais il faut avancer, avancer, avancer. Il y a même des moments où on sent, vraiment dans les marées de l'angoisse, un peu le désespoir de se dire, bah, je vais pas y arriver, ça va pas marcher. Il dit même un truc à un moment donné, il dit, bah, je comprends pourquoi Jean-Jacques Goldman, il fait plus d'albums. Voilà, il est peinard, pépère, tranquille. Pourquoi il fait plus d'albums? Il vit tranquillement. Parce que il a le sentiment, peut-être même à un moment donné, il dit, c'est l'album de trop, c'est l'album que je vais pas arriver à faire, je ne vais pas y arriver. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Et car, c'est une autre leçon qu'on doit tirer, c'est que malgré le succès, malgré ses milliers de textes, il doute sur sa capacité à y arriver. Il pense qu'il ne peut pas y arriver, en fait, à un moment donné. Et il dit même une phrase qui est très forte, il dit « Je me suis trompé de branche, je pense. Je chante faux et je ne sais pas faire de musique. En fait, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt à ce que je fais sur le moment ?» C'est incroyable quand même, parce qu'il devrait se nourrir de son parcours, se nourrir des milliers de disques qu'il a vendus, se nourrir de la vie qu'il vit, se nourrir des Bercy qu'il a pu faire, des tournées, du public qu'il a rencontré, de tout ça. Mais malgré ça, en fait, quand il est dans la création, il est tout seul. C'est-à-dire que dans son studio, on le voit beaucoup. Alors, bien sûr, il y a son frère qui le filme, mais en fait, il est tout seul en train de chercher des sons. Il est tout seul en train de chercher des textes. Il est tout seul en train de chercher la rime, le mot qui va aller, l'idée, le concept de son album. Il est tout seul. Il n'y a pas les fans, il n'y a pas... Alors, il y a un bout de la famille, parce que c'est le confinement, il est retourné à Caen, d'où il est originaire. On voit que des fois, il y a son père qui s'invite, il y a ses neveux, donc les enfants de son frère qui sont là, qui viennent chanter. D'ailleurs, qui ne chantent pas du Aurel San, hein, qui disent « Attends, on peut pas chanter une chanson », et qui chantent totalement autre chose. Et puis, on voit aussi d'ailleurs, et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas tout seul là-dedans, parce que il y a d'autres personnes qui interviennent, et notamment, on voit Stromae. Stromae qui lui envoie un message en disant « Écoute, je galère, tu peux même donner un coup de main sur mon album ?» Et en fait, il envoie ce message, alors que lui-même, Aurel San, galère aussi. Et quelque part, pour lui, ça devient très rassurant, c'est-à-dire que quand il est tout seul et qu'ils n'arrivent pas à créer, parce que après derrière il y a Skred, il y a Ablai aussi qui viennent l'aider, qui viennent écouter, qui sont ses amis de toujours. Et puis on voit Gringe, on voit d'autres personnes qui interviennent, qui sont en fait son entourage et les gens qui l'ont accompagné depuis des années. Même eux, à un moment donné, tout l'ensemble est bloqué. Ils cherchent comment se débloquer. Ils changent d'endroit. Ils ont leur méthode. Ils s'enferment dans une maison. Ils vont ailleurs. Ils changent de lieu. Il faut qu'ils finissent certains projets pour d'autres personnes, etc. Enfin, bref, tout ça, on le voit. On voit que quand ça coince, il faut avancer. Mais qu'à un moment donné, il se dit que, en fait, il ne va pas y arriver. Et puis, il y a un autre élément. Je vous ai parlé tout à l'heure du remix créatif. Il y a un autre élément qui est très intéressant. Vraiment très intéressant. C'est que, il y a quelque chose qui le sauve, mais à un moment donné, il s'est senti aussi un petit peu perdu quand il l'a perdu, justement. C'est qu'en fait, il a toujours à la main son iPhone et toujours en train de prendre des notes. En fait, son Apple Note est rempli de notes, d'idées, de concepts, de phrases, de couplets, de refrains, de plein de choses qu'il a notées au fur et à mesure. Et en fait, les autres artistes qu'on voit, parce qu'il y a d'autres rappeurs, il y a même Angèle, on voit d'ailleurs qu'il devait faire une chanson avec Angèle et qui ne sort pas, alors que pourtant ça aurait été probablement un tube incroyable, mais qui ne sort pas, et on découvre la raison dans l'un des épisodes. En fait, tous le disent, il est toujours en train de noter quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, son cerveau ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que quand il est en mode, il y a un truc qui lui passe par la tête, une discussion, il le note. Et donc, il remplit, en fait, ses notes. Et on le voit sur son ordinateur, sur un iPad, on le voit souvent sur son iPhone. Dès qu'il y a un truc, il le note. Et donc, il a des notes en pagaille sur son iPhone. Et au moment de composer ses chansons, en fait, de faire ce fameux remix créatif, il va chercher dans son second cerveau, dans son Apple Note, il va chercher dedans, toutes les idées qu'il a pu avoir. Et en fait, au début de cette nouvelle saison là, on va dire, son frère un peu explique comment il est en train de ranger. C'est-à-dire que là, vous pensez que la créativité, c'est de dire d'un coup il se met derrière le micro, il sort des chansons, il sort plein de choses. En fait, non, le premier truc qu'il est en train de faire, c'est un petit peu de ranger son cerveau. C'est un truc incroyable. C'est-à-dire que il commence à prendre ses notes, à assembler, à regarder ce qui lui est passé par la tête, justement de voir ce qu'il a nourri, ce monde qui l'entoure, les petites phrases, le vécu, tout un tas de choses. Il est en train de le ranger, de voir comment il peut l'assembler, de chercher les concepts, de sortir un petit peu les idées de leur tiroir, de voir comment elles ont été rangées. Et puis petit à petit, tout ça, en fait, il va le noter. Et à un moment donné, il se retrouve totalement perdu parce que quand il démarre son ordinateur, il n'a plus aucune note. Il perd toutes ses notes. Alors, la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il les récupère. La mauvaise nouvelle, c'est que on ne sait pas si tout le monde pourrait les récupérer parce que c'est un de ses potes, un informaticien, qui a passé beaucoup de temps dessus et que chez Apple, en fait, ils n'étaient pas capables de lui dire comment les récupérer. Et ça, si vous êtes sur Apple Note, c'est peut-être un truc qui va peut-être pas vous rassurer en regardant cette saison. Mais en tout cas, c'est la réalité. C'est-à-dire que on l'entend appeler Apple Care et qu'il lui dit non, on peut rien faire. Et les gens lui disent oui, ça arrive souvent et tout, qu'on perde des notes comme ça. Donc, si votre second cerveau c'est Apple Note, là, vous allez prendre un petit peu peur. Ça veut dire aussi que de temps en temps, il faut trouver un moyen de faire des sauvegardes, de faire des exports. Mais en tout cas, on voit, et c'est quelque chose dont j'ai souvent dit, l'importance de prendre des notes, l'importance de noter les choses. Et on voit vraiment comment il se sert de tout ça. C'est-à-dire qu'il prend des notes, Il y a du remix de créatif de tout ça. Ses notes sont sur ce qui l'entoure, sa vie, son, par exemple la chanson La Quête, qui est une chanson qui est incroyable, où il raconte en fait ses ressentis. Et ben ça va de ses ressentis d'enfant jusqu'à son mariage, mais tous ces éléments-là, il les note au fur et à mesure. Et quand il bloque, quand il dit ben il manque un couplet, je sais, il manque un élément, et ben où est-ce qu'il va le chercher? Justement dans les notes qu'il a sur sur Apple Notes. Et donc c'est ça en fait sa créativité. Et ce qu'elle montre, ça montre un élément qui est super important, c'est que finalement on pourrait dire que un gars comme Orelsan, il a beaucoup de talent, mais en fait il doute d'une part qu'il a du talent. Et puis surtout, on voit que c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. C'est-à-dire que lui-même, il le dit, je le répète, il dit que lui, pour lui, il sait pas faire musique, il chante faux. Scred dit qu'il n'a jamais appris la musique, mais qu'ils savent jouer, mais c'est pour, à l'oreille, en fait. À l'oreille, il sait ce qui va marcher, comment ça va le faire. Il mélange des sons. Ils ont d'autres personnes qui viennent intervenir, qui vont mélanger des sons, qui vont aussi les aider à trouver la sonorité. Mais c'est énormément de travail. C'est-à-dire que ceux qui pensent que il prend un micro, et que tout d'un coup, il sort un rap, il sort une chanson, il y a des moments où oui, on a le sentiment que ça sort comme ça. Mais en fait, ça sort comme ça parce que pendant des heures, des jours, même des semaines, eh ben, il y a le cerveau qui fonctionne, qui bouillonne, qui reprend ses idées qu'il a dans ses notes, qui reprend les inspirations qu'il a pu écouter, qui est à l'écoute de ce qui se passe autour de lui, qui observe ce qui se passe, qui note certaines petites idées, des choses qui ne paraissent pas grand chose, mais qu'il va être capable d'assembler. Et vraiment, c'est là où on voit la force, en fait, qu'il a, c'est de s'accrocher à se dire, il faut qu'on arrive à le finir, il faut qu'on arrive à boucler. À un moment, il est sur le point de dire, bah, maintenant, on peut repousser. Mais en fait, ils savent qu'il faut pas repousser. Pourquoi? Parce que c'est le dernier point qui est important et qui est à retenir. C'est que tout ce travail qu'il a fait, bah, ne sert à rien si il rate le lancement et surtout s'il se lance pas. Et il y a, dans le dernier épisode, ils le disent à un moment donné, ils disent, à un moment, il faut savoir couper. Il faut savoir dire stop. Il faut savoir se dire que il y a un élan, que tous les artistes vont redémarrer, que ils ont réservé Bercy assez tôt, qu'ils ont préparé la tournée, mais en fait que pour être dans les temps, il faut savoir dire stop. À un moment, il faut rendre l'album, il faut que l'album se termine, il y a un dernier couplet à faire. Et Scred, qui est sur la musique à un moment, le dit, il dit bah il prend les notes. En fait, il est en train de chercher un couplet sur Civilization, sur le dernier titre, le titre qui donne l'album, le nom à l'album. Il cherche en fait le dernier couplet, et il prend les notes, et il voit qu'en fait, il y a des pages et des pages de notes pour chercher un couplet. Et il lui dit, mais en fait, t'es en train d'essayer de chercher un truc de génie, t'es en train de chercher un truc de incroyable. Mais si tu cherchais des trucs plus simples, et il lui dit plusieurs fois, en fait, dans à l'intérieur de ces épisodes, il dit plusieurs fois, et il le dit à la toute fin, il lui dit, non, mais il y a un moment donné, il faut mettre fin, quoi. Il faut, d'ailleurs, on le voit, à un moment donné, il tape le mot fin pour dire stop. À un moment donné, il faut être capable de balancer. Il faut se dire, maintenant, là, on a terminé et il va falloir lancer. Quoi qu'il arrive, il va falloir lancer. Donc, il faut être capable, avoir le courage de dire, là, maintenant, on arrête. On retire des chansons. Au dernier moment, il retire des chansons. On va en rajouter, on va changer ça, on va changer l'ordre, on va refaire ça. Mais il y a un moment donné où tout ce travail créatif doit se terminer. Il faut appuyer sur le bouton fin, se dire que là, on a terminé, même si probablement il y aurait des choses à peaufiner, même s'il y aurait probablement des choses à revoir, à refaire, des choses à ajouter. Il faut appuyer sur le bouton fin et se dire maintenant, je publie, je diffuse. Parce que eux, ils ne doivent pas rater le lancement, ils doivent créer un élan autour de l'album, ils doivent créer un élan autour de la tournée. L'élan, ils savent le créer parce qu'il est attendu. On voit qu'il y a eu des doutes, qu'il y a eu plein de choses hein, autour de ça. Mais à un moment donné, il faut se lancer, il faut oser se lancer. Même si ça a été dur, même si tout a été compliqué, il y a un moment, il faut dire, maintenant, tout le travail qui a été fait doit se concrétiser, et il ne peut se concrétiser que si on appuie sur le bouton publier, diffuser, lancer, faire écouter, même si c'est compliqué, même s'il faut aller beaucoup plus vite sur certaines choses, il faut avancer et il faut appuyer sur le bouton se lancer et dire là, il faut arrêter sur la partie créative et maintenant passer sur la partie se lancer, créer le mouvement et surfer ensuite sur la vague qui va se créer comme ça, qu'ils ont créé en disant bah voilà, c'est le retour. Et c'est vraiment très intéressant de voir ce documentaire parce que ça nous rappelle ce que nous faisons nous aussi. C'est-à-dire que moi je le vois, par exemple sur mon livre, quand j'ai sorti mon livre Le Contenu Minimum Viable, j'avais toujours des trucs à rajouter, à tel point que j'ai pris beaucoup beaucoup de retard et que moi, contrairement à Orelsan, j'ai pas mis une date en disant à telle date il faut que ce soit terminé. Et d'ailleurs je suis en train de refaire exactement la même chose sur mon deuxième livre qui est sur comment on devient champion du monde de son monde. J'avais prévu une date de lancement qui était le 26 juillet pour fêter ma première année de course et me suis rendu compte qu'à un moment donné j'ai dit je vais repousser, sauf que j'ai pas mis de date pour dire faut publier. Donc je suis capable de rajouter toujours des éléments, de le revoir, de modifier. Toujours, je cherche toujours à avancer, point après point. Mais en fait, à force de ne pas mettre de date, eh ben, je ne lance pas. Moi aussi, par exemple, il y a des moments où je me dis, mais je vais jamais y arriver. Et voir que un artiste comme Orelsan, a les mêmes doutes, a vraiment ces doutes-là, on se dit qu'en fait, tout le monde a ses doutes. Et là, ça vient casser, je le répète, le mythe, vous savez, qui est trop vendu par le cinéma américain, mais même le cinéma français a pu le vendre. C'est l'aspiration, c'est l'impression que l'artiste, il a une aspiration divine et que tout d'un coup, il a plein de trucs qui viennent. Vous savez, vous avez combien de films où vous voyez que l'auteur d'un coup se met derrière sa machine à écrire, il se met à taper, à faire des dizaines et dizaines de pages d'un coup, ça vient comme ça. Mais en fait, Orelsan démontre que c'est totalement faux. Hein, non, ça ne marche pas comme ça. Et en fait, c'est très rassurant de voir qu'un artiste de son calibre a ces difficultés-là. Et si vous avez ces difficultés-là, regardez le documentaire sur Orelsan. Il est sur Amazon Prime. Regardez-le. C'est vraiment, ça va vous rassurer. Ça va vous rassurer sur beaucoup de choses. Vous dire qu'en fait, déjà, les méthodes de production, de dire... je me nourris de ce qui m'entoure, je prends des notes, reprendre des idées, ne pas hésiter à se dire ça j'avais fait ça pour un autre truc mais finalement ça irait bien ailleurs, jeter certaines choses qui nous plaisent pas, créer beaucoup de choses pour garder juste un élément, remixer plein de choses, prendre les idées qu'il y a dans l'air du temps, prendre tout un tas d'éléments pour se nourrir et puis en faire notre propre création, tout ça c'est ce qu'on dit, hein. Moi je l'ai dit je ne sais pas combien de fois dans ce podcast, c'est exactement aussi ce que montre Orelsan à travers ces nouveaux épisodes, ces 4 nouveaux épisodes. Donc je pense que si vous doutez de vos capacités à créer quelque chose, si vous doutez de vos méthodes en disant oui mais moi ça je peux pas faire ça, faut que je crée un nouveau truc qui n'a jamais existé ou quoi que ce soit, si vous pensez même que vous n'avez pas de talent mais que vous sentez que par contre vous avez un truc à dire, regardez-le, ce documentaire, vous allez être vraiment rassuré sur le fait que le talent, oui, peut-être que ça sert à quelque chose, mais qu'on a surtout en voyant Orelsan, le sentiment que c'est surtout beaucoup le travail qui l'a permis d'être là. C'était vrai sur la première partie de documentaire, sur les premiers épisodes qui montraient les débuts de sa carrière, où on le voyait écrire alors qu'il était travaillé dans un hôtel de nuit, on le voyait se prendre des galères pas possibles, etc. C'est tout aussi vrai maintenant qu'en fait il sait que ça marche, qu'il a eu du succès, qu'il avait fait 3 albums, qu'il avait fait Bercy, des disques de platine, et malgré tout ça il a encore un doute sur le fait qu'il soit capable de sortir un album, d'écrire des couplets, de faire de la musique, de faire une chanson complète. Les gens de l'extérieur se disent mais comment il fait ça, c'est incroyable. La réponse elle est là, elle est sous les yeux et c'est vraiment passionnant. C'est pour ça que je vous recommande d'aller regarder ce documentaire et regardez-le avec vraiment des yeux de créateur en vous disant qu'est-ce que ça m'inspire moi quand je le regarde. Moi je vous ai donné les éléments qui m'inspirent, je le répète, se nourrir de ce qui nous entoure, prendre des notes, vraiment le second cerveau c'est vraiment important, remixer, faire du remix créatif ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on a noté, de remélanger ça, de faire du remix de tout ça pour faire des nouvelles choses qui sont à nous, hein, c'est vraiment ça. Si vous avez lu aussi Sinclair aussi, vous savez que c'est vraiment aussi son parti pris. Et puis se rappeler qu'en fait il faut toujours avancer, faire avancer les choses. Des fois c'est d'un mot, des fois c'est d'une petite phrase, des fois c'est en enlevant des choses, des fois c'est en laissant un petit peu reposer, mais d'essayer de toujours avancer, et que c'est normal à un moment donné de douter, de se dire qu'on va pas y arriver, que malgré le succès, quelqu'un comme Orelsan se doute à un point de se dire qu'il ne va pas y arriver. Et donc nous, quand on n'a pas encore réussi par exemple à sortir notre podcast, quand on n'a pas encore réussi à écrire notre livre, c'est encore plus normal qu'on doute. C'est encore plus logique qu'on se dise qu'on va pas y arriver, parce que nous, et vous, si vous ne l'avez jamais fait, si vous n'avez jamais sorti de podcast, de vidéo, quoi que ce soit, et que vous dites je veux le faire, et que vous ne l'avez encore jamais fait, vous savez même pas que vous en êtes capable de le faire. Là, Orelsan, on le voit douter, alors qu'il sait qu'il était capable de le faire, et qu'il a sorti, et c'est ce qui étonne d'ailleurs son entourage, qu'il a sorti des centaines de chansons avant, qu'il a sorti beaucoup, beaucoup, des milliers de textes, des pages complètes, et il doute encore de sa capacité à le faire. Alors, c'est totalement normal si, quand vous ne l'avez pas encore fait, vous doutez de votre capacité à le faire. Mais, ce que montre Orelsan, c'est que c'est pas quelque chose qui vient comme ça d'un coup avec du talent, c'est beaucoup de travail pour avancer, avancer, avancer. Et que, à un moment donné, ça vient, et que, quand ça vient, et qu'on a une version, on va dire, qui est, alors, elle est pas minimum viable, hein, chez eux. Elle est vraiment, terminée, parce qu'il y a beaucoup de travail ensuite de peaufinage, parce que quand ils diffusent, ils peuvent pas se louper en sortant un truc qui est un brouillon. Mais vraiment, c'est, à un moment, ils se disent, c'est la version qu'il faut que maintenant, on diffuse et on lance, et il faut appuyer sur le bouton publier. Et c'est, la leçon que je tirais de cette série, en fait, hein, qui est une série, hein. Donc là, il y avait la saison 1, et puis là, c'est ce qu'ils appellent partie 1 et partie 2. Je vous encourage vraiment à la regarder, et n'hésitez pas, bien entendu, à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez regardé. Vous n'êtes pas obligé d'être fan d'Orelsan, en fait, pour regarder, pour apprécier un petit peu le travail. Et puis, il n'est pas du tout impossible que, après, vous le regardez, si vous ne connaissez pas le travail d'Orelsan, si vous ne connaissez pas trop son univers, et ben vous changez peut-être d'avis sur le personnage. Moi, en tout cas, c'est vraiment une série qui m'a permis de découvrir beaucoup de choses sur lui. Et je veux le dire, quand je vais courir, il y a beaucoup des chansons que j'écoute, et notamment une que j'adore, qui s'appelle La Quête, et dans lequel il explique, hein, dans lequel il traduit, il explique en fait ce qu'il a vécu, comment il a vécu, et qui est vraiment un sentiment. Et c'est là où on voit que il est vraiment calqué aussi sur les sentiments. Et si elle a autant de poids pour plein de gens, ses chansons, c'est aussi parce que il a su capter en fait ce qu'il ressent et comment il le ressent, et il est capable de le raconter. Et voilà, c'est vraiment ma recommandation de la semaine. Je vous souhaite à tous une très 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 belle semaine. Prenez deux petites heures, enfin ça dure un peu plus, mais deux heures et demie pour regarder ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.